Monique, on revient sur un dossier, celui d'un chauffeur qui a causé un face-à-face. Et il y a une famille qui a été impliquée brutalement, une famille avec des blessés, en 2016. Et le chauffeur, lui, va éviter la prison.
Oui. Vous savez, on est en ère post-Jordan, l'arrêt de la Cour suprême. Il y a beaucoup d'ententes qui sont conclues entre la Couronne et la Défense. Le tribunal, d'ailleurs, favorise les règlements quand ils sont honnêtes, bien entendu. Ça permet de maximiser le temps de cours. Et je suis convaincue que c'est pas au détriment des lois. Par contre, ce que j'observe depuis quelques mois particulièrement, c'est que ça peut parfois être au détriment des victimes, des gens qui sont impliqués en marge d'actes criminels, qui vont souvent se sentir laissés de côté. Et c'est un peu ce qu'on a ce matin, parce que, bon, même si c'est fait dans le plus grand respect du monde de la part de tous les acteurs judiciaires, que ce soit les procureurs, les juges, ça laisse des marques. Le 18 novembre 2016, il y a cette mère qui a été impliquée dans un accident avec ses deux jeunes enfants de 9 et 5 ans. Ils s'en allaient voir la parade du Père Noël. Elle était avec son père également. Ils étaient sur la 158 à la hauteur de Mirabel. Et là, il y a un véhicule qui a dévié de sa voie, qui est venu les heurter de plein fouet en face à face. J'ai parlé avec Sébastien Bédard, qui est le conjoint et le père des enfants. Il raconte la suite.
Elle a perdu contrôle à ce moment-là. Elle a fait des pivots sur elle-même. Toute la vitre de côté, du côté conducteur, elle a été brisée. Ma conjointe, elle a eu l'œil perforé, plusieurs lacérations sur le côté. Elle voit une commotion cérébrale suite à ça. Entorse cervicale et compagnie. Mes enfants qui étaient à l'arrière, il y a une des portes qui a complètement cédé, là, qui n'était plus là lors de l'impact. Les enfants étaient libres sur la 158, une voie qui roule à 90 km/h. Puis le fautif de la voiture qui est venue frapper est allé finir sa course sur une deuxième voiture à l'arrière. Ça l'a frappé très fort.
Il y avait plusieurs témoins, des automobilistes qui ont accouru pour porter secours aux blessés. La conjointe de M. Bédard était demeurée là, incarcérée dans la voiture. Et pendant ce temps-là, le chauffeur, je devrais dire, qui était en état d'ébriété, est sorti de la voiture. Ça peut paraître banal, mais cette action-là a été déterminante pour tout le reste de la suite des procédures.
Il n'y a personne qui a vu le principal suspect, dans le fond, sortir de son véhicule à ce moment-là. C'est une des causes qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas vraiment accuser le chauffeur qui est en état d'ébriété à ce moment-là, lorsqu'il a percuté les véhicules, de dire que c'était lui qui était vraiment au volant. Donc, il n'y a pas de cause. Ils ne peuvent pas gagner devant un juge.
Donc, même si le chauffeur était seul à bord, même si c'est sa voiture, comme il est sorti et que personne n'est capable de le placer derrière le volant, c'est quasi impossible de le faire condamner. Oui, c'est ça, exactement. Logiquement, c'est lui, mais comme personne ne l'a vu derrière le volant, ça semble avoir joué un rôle dans cette décision. Et c'est sûr que ce n'est pas le seul facteur. Il y a eu des erreurs qui ont été faites, entre autres. Les policiers, ce soir-là, étaient, semble-t-il, débordés. Et ils n'ont pas lu les droits correctement et au bon moment. Donc, il y a une partie de la preuve qui n'a pas été admissible. Voilà. Donc, on est 15 mois après l'accident. La Défense, la Couronne n'ont pas le choix. Conclut une entente, un plaidoyer de culpabilité à une accusation réduite de conduite avec facultés affaiblies.
On n'est pas d'accord avec cette décision-là. Toutes les conséquences que ça a eues pour moi, pour ma famille, pour ma conjointe, tous les efforts qu'on doit déployer jour après jour, passer par-dessus ça pour être capable d'avoir des petits sourires dans la maison. Tout ça tombe lorsque le procureur nous mentionne ses explications qui ne tiennent pas debout pour monsieur, madame, tout le monde. Là. Il y a des points de droit qu'on doit comprendre puis qu'on le respecte. La frustration, l'impuissance vient du fait qu'on vient banaliser ça. On vient de dire à ma conjointe, aux enfants, à mon beau-père que toutes les conséquences qu'ils ont eues depuis 15 mois, ben le monsieur il est prêt à avouer qu'il était en conduite avec faculté affaiblie. Par contre, il exclut le fait qu'il a blessé mes enfants qui vont être permanentes, qui vont rester là pendant des années. Là.
Donc, l'entente...
C'est dégueulasse. Moi, j'ai pas d'autres mots. Là. C'est le genre de truc... Écoute, il était là, il était chaud, il conduisait, il a frappé, il a blessé cette famille-là. Mmh. Puis là, on vient nous dire, ben savez-vous, on a fait un deal. Puis finalement, on peut pas... Dire, il était à quelle distance de chez lui, on sait pas, là.
Je comprends,
il n'était pas là par hasard. Dire, le véhicule, c'est pour retrouver le seul. Puis là, il vient lui-même reconnaître qu'il était au volant.
Le fait qu'il reconnaît avoir conduit en état d'ébriété, mais il ne reconnaît pas sa responsabilité dans les lésions qui ont été causées à cette famille-là. Donc, l'entente qui devrait être entérinée le 1er mars prochain au Palais de justice de Saint-Jérôme.
Merci. Il est presque 6 heures. Le tour de 13.